La première, podcast. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussé.
Les 23, 24 et 25 août 1914, l'armée allemande massacre des centaines de civils à Dinan. En cette fin d'été, la Gaume est également très durement touchée. Trois terribles batailles faisant des milliers de morts ont eu lieu entre les armées françaises et allemandes les 21 et 22 août, juste avant un carnage perpétré sur des civils, là aussi à Virton, Rossignol, Ette, Gomery, Barranzy notamment. Pillages, viols, incendies, fusillades, hommes, femmes, enfants, vieillards. Que reste-t-il de ces faits de barbarie? Comment le souvenir s'est-il perpétué? L'un des descendants de victimes dit « Après un massacre, on ne compte pas en années, mais en générations. » Générations au travers desquelles s'est transmis le traumatisme, angoisse, phobie, haine parfois, colère souvent, insomnie, incompréhension toujours. On s'interroge aujourd'hui sur la mémoire de ces massacres.
J'aimerais à vous tous vous demandez pardon pour les injustices que des Allemands ont commises autrefois dans ce pays.
Un jour dans l'histoire.
Et voilà ici la demande de pardon allemand à Dinan le 6 mai 2001 et pour évoquer ces journées. Est-ce qu'il en reste surtout avec nous aujourd'hui André D'Artevel? Bonjour André D'Artevel.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur d'un documentaire en deux parties. Ça s'appelle Trois journées d'août 1914. Alors un premier film qui s'appelle Les murs de Dinan et puis un autre qui s'appelle Les villages contre l'oubli. Il faut replacer ces massacres dans leur contexte. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914 et à son allié, la France, le 3 août en mettant le pied sur le territoire belge. Le 4 août, les troupes allemandes violent la neutralité de la Belgique et déclenchent une guerre mondiale. À partir de là, que se passe-t-il, André D'Artevel?
Eh bien, le problème, c'est que l'offensive allemande est très chronométrée, l'offensive contre l'armée française. Et du coup, elle se heurte à des obstacles. Les Anglais vont arriver, les Français pénètrent en Belgique, et de plus, l'armée belge, dont les Allemands pensaient qu'elle allait leur livrer le libre passage, leur tire dessus, et donc engage la bataille. Et donc tout ça va changer la donne pour les Allemands. Alors, ça va déclencher chez les soldats allemands une sorte de haine anti-belge. Je crois qu'on ne peut pas décrire ça autrement. Une forme de racisme. Et leur commandement, d'ailleurs, va les convaincre que les civils belges ont pris les armes, se livrent à une sorte d'insurrection populaire, et vont leur tirer dessus.
Ouais.
Et donc ça va déclencher donc les massacres auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Et je pense que cette légende des francs-tireurs qui s'est propagée dans la troupe allemande est restée d'ailleurs très 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 longtemps la vérité officielle en Allemagne pour justifier les massacres. Alors, ces massacres-là ont été effrayants parce qu'en quelques jours, vous avez 6500 civils qui sont passés par les armes en Belgique et en France. Et très longtemps d'ailleurs, ces tueries seront justifiées par les Allemands, comme je l'ai dit, mais après la guerre, ils seront complètement oubliés.
Ouais.
Ils vont passer au bleu, ils seront recouverts par les horreurs de trois années de tranchées et aussi par la mémoire combattante.
On va écouter de larges extraits de votre film, André D'Artevel. On se retrouve ici encore une fois à Dinan.
Le 23 août 14, les soldats allemands ont rassemblé les hommes à l'extérieur de l'abbaye et ils ont poussé les femmes vers les caves de l'abbaye. Et le Georges en question, avec ses 14 ans, comprenant pas ce qui se passait, a couru du groupe des hommes pour rejoindre sa mère et ses petites sœurs. Et ils l'ont abattu là, juste devant tout le monde, y compris devant sa mère et ses sœurs.
Voilà, l'un des descendants, d'une des victimes de ces massacres à Dinan et puis en Gaume. Vous le disiez tout à l'heure, André D'Artevel, les Allemands ont justifié cette guerre populaire systématique par l'action des francs-tireurs. C'est une vérité qui a été officiellement qui a eu cours très longtemps en Allemagne, mais oui. La presse aussi parfois allemande, même longtemps après les massacres, parlait d'espèces de mensonges, en tout cas de faits qui n'étaient pas avérés forcément.
Mais c'est-à-dire, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'une sorte de mythe s'est développé parmi les armées allemandes présentes sur le sol belge. Et donc, le commandement avait prévenu les soldats allemands qu'il y aurait probablement des formes de résistance de la part des civils belges. Ouais. C'était une conviction très ancrée. Et du coup, des récits imaginaires se sont développés parmi les unités allemandes présentes en Belgique. Et la presse allemande a publié ces récits, ce qui fait qu'il y a eu un effet en retour, évidemment. Les soldats, lisant ces récits, ont fini par y croire complètement. Il suffisait qu'il y ait un tir qui parte d'une maison isolée et abandonnée. Pour eux, c'était une certitude. Ils disaient « les civils nous tirent dessus ».« Man hat geschossen », disaient-ils. Et donc, ils s'en suivaient régulièrement
et puis,
des massacres.
40-45 est arrivé, et là, les Allemands, si j'ai bien compris, ont rasé tant qu'ils ont pu les monuments aux mémoires de ces massacres de 1914.
Oui, certainement, parce que je pense que l'Allemagne a continué à nier les massacres de civils, bien au-delà d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que chez beaucoup d'historiens, la guerre des francs-tireurs belges restait une sorte de certitude. Alors, il a fallu d'autres recherches, notamment des recherches internationales, pour finalement emporter la décision, y compris du côté allemand. Maintenant, c'est fini. L'histoire des francs-tireurs, ça relève effectivement d'une légende, voire d'un mythe. Ouais.
Les 23 et 24 et 25 août, donc à Dinan, près de 500 civils massacrés. Puis du 21 au 23 août, la tour est Tintigny, plus de 200 fusillés. Et puis aussi, il ne faut pas les oublier quand même, les soldats de l'armée française, c'est par milliers qu'on les compte là sur les champs de bataille qui vont tomber dans ces journées-là. Fin
août. Oui, la bataille des frontières, c'est vraiment la plus grande bataille qui s'est livrée donc, pendant l'invasion de la Belgique par l'armée allemande. Ce seront des batailles effrayantes parce que les combattants français sont mal préparés et moins bien équipés. Et je pense que sur 6 jours de combat, dans plusieurs localités, on va compter dénombrer 40 000 soldats tués. Ouais. 40 000, ce qui est énorme, évidemment.
Ouais. Alors vous, André D'Artevel, c'est à la mémoire que vous vous intéressez. Vous êtes allé à la rencontre des descendants de ces victimes des massacres. On va voir avec vous ce qu'ils en retiennent et surtout ce qui s'est transmis à travers ces mémoires.
Ils étaient cachés dans une cave, dans un genre de hangar. Et mon grand-père était donc près de son épouse et ses enfants. Quand les Allemands se sont amenés et ont pris tous les hommes, et mon jeune oncle avait sa petite sœur dans les bras, il a été empoigné, il a dû laisser tomber sa petite sœur et il a dû partir. Mon grand-père a eu le temps de jeter son portefeuille à ma grand-mère. Et puis c'était terminé pour eux.
C'est donc la mémoire qui est au centre de ces deux films, mais c'est une mémoire sans témoin direct, puisqu'ils sont tous disparus aujourd'hui. Il reste les descendants de ces victimes. Vous en avez rencontré une quarantaine à Dinan et en Gaume, André D'Artevel, autour de Virton notamment. Parfois, alors des fils ou des filles de victimes, mais le plus souvent les petits-enfants des fusillés, voire même les arrière-petits-enfants. Ils vous ont parlé, et pourtant, c'est le silence, ils le disent eux-mêmes, c'est le silence qu'ils ont partagé avec leurs ancêtres, leurs aïeux.
Oui, c'est vrai, parce que souvent, autour de la table familiale, on se taisait là-dessus, dans la mesure où il n'y a pas seulement des hommes, des êtres humains qui ont été détruits et tués, mais ce qui a été aussi démoli, c'est l'identité familiale, c'est l'image de la famille, c'est ce qu'on appelle le mythe familial. Ouais. Ce récit valorisant que les familles se transmettent de génération en génération, dans lequel on met évidemment les figures marquantes de l'histoire familiale. Mais il se peut que cette transmission soit dévalorisante finalement. Et c'est le cas ici parce que les massacres ont vraiment créé un vide dans le maillage des générations. Et donc les gens ont essayé de ne plus y penser, ils ont essayé d'éviter de revivre le traumatisme des massacres. Mais du coup, le silence à table, le silence de la famille, entraînait un problème d'identité, évidemment. Ouais.
L'un des témoins dit « Nous sommes des voyageurs sans bagages ».
Oui.
C'est-à-dire que on n'a pas ce passé, effectivement, ne nous suit pas, il est plutôt pesant.
Oui, le passé est égommé, ouais. Et je crois que la plupart de mes témoins m'ont dit ça, c'est que pour les survivants, ça avait été très difficile de reconstruire la famille, surtout sur le plan moral et symbolique. Mmh. C'était une histoire brisée, je veux dire, dans la mesure où des femmes, des enfants, des hommes avaient été massacrés pour des raisons et dans des circonstances complètement incompréhensibles, ouais, pour les habitants, évidemment. Et donc, ils se retrouvaient en face de cette béance dans l'histoire familiale, et il fallait essayer de la combler d'une manière ou d'une autre. Et je dois dire que chez beaucoup de mes témoins, ils ont mis en valeur la personne de la famille ou la veuve d'un fusillé qui a repris les choses en, ouais, main et qui a permis de relancer l'histoire familiale. Pourquoi ? Parce que simplement, cette veuve...
On en parlera tout à l'heure, oui, si vous voulez, André D'Artevelle, cette figure qui effectivement émerge de cette période, la mère Courage ou la mater Dolorosa. Oui. Mais avant cela, ce que vous avez partagé avec eux, est-ce que même dans le silence qu'elles partagent, ces victimes, mais c'est le traumatisme qui s'est transmis de génération en génération, c'est-à-dire des phobies en tout genre, comme je le disais tout à l'heure, des insomnies même. Le film s'ouvre sur le témoignage d'un homme qui a, je crois, 80 ans environ. Ses grands-parents ont été massacrés, décapités, donc les images aussi sont d'une extrême violence. Oui. Sa mère avait 13 ans, elle a vu son petit frère abattu devant ses yeux, et là c'est l'angoisse vraiment qui s'est transmise.
Absolument, et d'ailleurs ce qui est très frappant quand des pans du passé sont barrés par le refoulement, qui est une censure en quelque, ouais, sorte, hein, de l'esprit... Et ça m'a beaucoup frappé chez les témoins, c'est que quand ils me reparlaient des tueries, ils m'en parlaient comme si ça s'était passé hier. Comme si ça s'était passé, mmh, hier. C'est-à-dire que l'événement était devenu complètement intemporel pour eux. Et donc ça, c'est évidemment une sorte de mémoire en souffrance, hein, des mémoires qui n'arrivent pas à se reconstruire.
C'est une histoire psychosociale que vous pratiquez, André
D'Artevelle. Oui, on peut dire ça. Je pense que j'avais déjà pratiqué ça dans certains films, donc une forme de psycho-histoire, hein. Mmh. M'installer vraiment dans la mémoire des gens, de mes témoins, et puis voyager avec eux dans le passé et dans leur passé.
Voilà, c'est ça qui est intéressant ici, c'est l'acquaintance entre leur histoire personnelle et la grande histoire.
Oui, dans la mesure où ils restent souvent marqués, ouais, ou dans la mesure où il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est un mot compliqué, mais très simple, ça veut dire qu'on encaisse tout d'un coup des conflits qui n'ont pas été résolus, qui se sont développés dans des générations précédentes.
C'est une tristesse, parce qu'on voit, et notamment le premier monsieur que l'on a entendu ici, c'est un chagrin qui met mal à l'aise, parfois. On entre peu à peu dans votre film, hein, mais au départ, on est un peu gêné d'être là. Vous avez ressenti cela ?
Non, pas du tout, parce que, en fait, ce qui s'est passé avec la plupart de mes témoins, c'est qu'ils ont fait en direct une sorte de travail de mémoire. Ouais. Et dans la mesure où ils le faisaient, c'était extrêmement positif, évidemment. Moi, ce que j'ai ressenti chez ces témoins-là, qui avaient quand même dépassé le deuil, hein, et qui faisaient ce travail devant la caméra, c'est une sorte d'apaisement, de mémoire juste. J'ai senti chez eux qu'ils arrivaient à un stade où ils étaient capables d'en parler. Ça veut dire capable de partager cette mémoire avec les autres. Et ils allaient même au-delà, ils étaient au stade du devoir de mémoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils en arrivaient à une sorte d'impératif de solidarité et de justice. Ils constataient qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des victimes, ouais, que ça faisait partie d'une histoire globale. Donc ils ont remis les choses dans leur contexte et ils se sont mis à s'intéresser aux victimes des autres, et pas seulement aux victimes des autres, aussi aux victimes d'aujourd'hui. Ouais. Puisque tous les jours, l'actualité, malheureusement, nous sert sur un plateau des crimes de masse. Et ça m'a beaucoup touché. Donc, le fait que ces gens-là ressentissaient une solidarité avec les victimes des crimes de masse d'aujourd'hui.
En même temps, l'un des témoins dit, il parle de ressassement, hein, toujours de cette histoire. Est-ce que vous avez, il parle même, il dit, on est empêtré dans nos morts. Et il le dit lui-même, ça n'a pas été très facile de reconnaître que nos morts sont aussi les morts des autres et qu'il y a d'autres victimes que nos propres victimes.
Oui, ça c'était la phase, ouais, évidemment, un petit peu plus pathologique de la répétition ou du ressassement. C'est un trait de la mémoire pathologique, c'est-à-dire qu'on répète toujours les mêmes choses. Dans certaines circonstances, lors des cérémonies annuelles notamment, et en faisant ça, évidemment, on s'évite de revivre le traumatisme. Mmh. Parce que le ressassement, la répétition, vaut oubli en quelque sorte.
Et on va voir qu'à Dinan et Angoume, on n'a pas partagé la mémoire et on ne l'a pas transmise de la même manière. Avec vous, André Dartevel, le film s'appelle « Trois journées d'août 1914 », donc deux films, « Les murs de Dinan » et « Le village contre l'oubli ».
Le massacre des hommes a continué. Ils ont été fusillés là, près de l'abbaye. Et tout le monde s'est toujours posé la question de savoir pourquoi ils avaient été fusillés. C'était vraiment le victime innocente d'une barbarie imbécile et crapuleuse. C'est un crime ignoble, quoi. Hein. Oui.
Donc ces deux films, Les murs de Dinan et Les villages contre l'oubli, juste peut-être, André Dartevel, expliquer, Les murs de Dinan, ce sont en fait, c'est une sorte d'étape du calvaire qu'ont subi les victimes en 1914, les fusillés en 1914, ces murs-là. Hein.
Oui, bien sûr. Oui.
À Dinan et Angoume, donc on ne partage pas la mémoire de la même manière. J'ai l'impression qu'Angoume, on est plus proactif, comme on dit aujourd'hui.
Oui, oui. Oui, à Dinan, je me suis adressé à des personnes, à des individus, et je pense qu'ils ont fait un travail de mémoire. Mais donc, ça restait à un niveau purement individuel. Tandis qu'en Gaume, je l'ai fait aussi avec certaines personnes, mais là, il y a une sorte de dynamique de la mémoire qui s'est mise en route avec l'approche du centenaire. Mmh. Je pense que les habitants ont voulu profiter du centenaire pour essayer d'acquérir, d'avoir une reconnaissance de ces crimes par l'ancien ennemi, c'est-à-dire l'Allemagne. Et donc, d'ailleurs, leur prêtre leur a servi un petit peu de porte-parole, puisque dans chacune de ses homélies, ouais, il demandait à ce que les Allemands viennent un peu comme à Canossa reconnaître les crimes et ce qui n'avait pas été fait auparavant, ou ce qui avait été fait, mais toujours en se réfugiant derrière le mythe des francs-tireurs.
Alors, qu'en est-il de ce devoir de mémoire ? C'est une notion que l'on rabâche un petit peu, c'est compliqué, c'est très complexe cette notion-là. Alors, votre point de vue, André Dartevel, sur ce devoir de mémoire ?
Mais alors, pour moi, le devoir de mémoire, quand c'est une obligation que vous vous faites à vous-même, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Parce que là, vous sortez du deuil, vous sortez du travail de mémoire et vous allez vers autre chose. Vous allez vers ce que j'ai appelé l'impératif de justice et de solidarité. Et d'ailleurs, je pense qu'une des meilleures définitions du devoir de mémoire, elle est d'Aristote, qui disait que c'était un devoir de justice par le souvenir envers un autre que soi. Mmh. Et c'est un peu ça qui se passe. Quand j'ai dit que, par exemple, un de mes témoins a ressenti tout d'un coup une solidarité avec des victimes d'un massacre actuel, c'est très frappant.
Il ne faut pas confondre non plus le passé avec l'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit notamment une dame qui a beaucoup de mal à voir qu'un drapeau allemand flotte en face de ses fenêtres. Alors on peut comprendre que, voilà, qu'il y a un ressentiment qui soit transmis, mais il faut faire aussi très très attention là. Cette mémoire ne doit pas englober les bourreaux d'hier, ne sont pas ceux d'aujourd'hui.
Exactement. Le temps a passé et je pense que il n'y a pas eu de pardon, à proprement parler par rapport à l'Allemagne, mais il y a eu une sorte de réconciliation progressive avec le voisin qui était notre ennemi et qui ne l'est plus. Et je pense que ce qui est important actuellement, par rapport à ces célébrations du centenaire, c'est d'essayer de les faire avec les Allemands, avec l'ancien ennemi, et de raconter une autre histoire, autrement, et ensemble.
On va voir qu'une figure, vous le disiez tout à l'heure, André d'Artevelde, a émergé de cette guerre, hein, d'ailleurs, 14-18, et là précisément de ces massacres. C'est celui de cette femme, de ces femmes qui ont survécu et qui ont, très prosaïquement parlant, dû faire bouillir la marmite.
Pour ainsi dire, dans chaque maison, il y a eu un fusillé. Ici, vous avez la maison des Collignon, deux frères, un qui était coiffeur, l'autre qui était tailleur d'habits. Maintenant, ils tenaient bistrot. Sur le pas de la porte, les Allemands sont passés, ils les ont embarqués. Dans la même chose, chez Jacob, l'oncle et le neveu, il était sur la porte. Ça continue. À côté, vous avez la petite maison jusqu'à juste là à côté. C'est le père Bayet, qui était sabotier, qui était sur sa porte aussi, qui se demandait ce qui se passait, embarqué avec les autres. Son fils était un peu plus loin, embarqué. Là-bas, dans le fond, c'est la maison des Déhommes. Là, le père, les deux fils et le frère du père. L'autre côté aussi, une maison à droite, deux, trois, où il y a eu chaque fois un fusillé dans chaque maison.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Voilà, là on était à Tintigny, à l'un des villages de Gaume qui a été durement touché. On lisait incendies, pillages, viols, massacres, fusillades. Des familles entières ont été disséminées. Un père et ses cinq enfants, ses cinq filles, je pense, ont été fusillés. Donc l'une des figures qui va émerger de ces atrocités, c'est celle de la mère. Et on voit à travers tous ces témoignages, André d'Artevelde, cette espèce d'admiration pour cette figure-là.
Oui, parce que donc il s'agit ici de veuves de fusillés. Et je pense que quand elles ont réussi à nourrir et à éduquer leurs enfants, et même les porter jusqu'à l'âge adulte, en résistant au désespoir, à l'alcool, etc., elles ont finalement fait l'objet d'un culte par les descendants, parce qu'elles étaient vraiment des modèles de courage et de dévouement. Mais cela dit, la veuve en noir est une figure patriotique qui est apparu évidemment avec les cérémonies annuelles. Et généralement, c'était une sorte d'entité asexuée, parce qu'elle ne se remariait pas. Hein. Ouais. Elle pratiquait un devoir de fidélité conjugale et de devoir civique en ne se mariant pas. Ouais. Mais c'était un personnage réel en même temps et qui était vraiment adossé à la vie quotidienne et qui a permis à des familles de se relancer. À côté de ça, il y a d'autres veuves en noir qui sont très différentes et qui font pas vraiment l'objet d'un culte, mais qui sont l'objet de pitié. Ce sont des veuves, en fait, qui sont là pour pleurer les leurs et qui pleurent le mari perdu, qui perd les enfants perdus, et dont c'est le rôle principal. Donc, elles ne sont pas les mères courage et les mères nourricières, elles sont des sortes de mater dolorosa qui offrent au fond leurs larmes en public.
Et j'ai le sentiment, en ayant vu votre film, André d'Artevelde, que peut-être cette figure-là s'est transmise aussi. Il y a notamment la descendante d'une des victimes, je pense c'est l'arrière-petite-fille, qui pleure encore ces morts-là, à la manière de cette mater dolorosa que vous venez de parler, comme si ce rôle-là, au fond, elle l'avait repris.
Oui, effectivement, le rôle est repris, et dans les villages, surtout, les descendants dont on parlait font partie des comités qui organisent les cérémonies annuelles et qui s'occupent de la mémoire collective des villages.
C'est une sorte de matriarcat qui s'est installé dans des régions de...
Oui, dans certains villages. Par exemple, La Tour. Si on prend le village de La Tour, tous les hommes ont été fusillés, tous. Donc, au lendemain des massacres, on s'est retrouvé avec des villages de veuves. Elles ont dû prendre en main les choses, faire le travail des hommes, élever les enfants, etc. Et elles ont créé même un matriarcat pour gérer le village.
Alors, ce qu'il ressort également de ces tragédies, c'est que la guerre, c'est aussi une affaire de classe. Certaines femmes donc, se sont retrouvées veuves, et certaines s'en sont mieux sorties que d'autres. L'un des descendants dit « Ah, si elles avaient été juristes, elles s'en seraient mieux sorties, parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque. »
Non, bien sûr. Il faudra quand même attendre quelques années avant de toucher une pension. Et en attendant, ce seront des années de galère, de misère.
Joseph Schlegel, Eugène Dumont, 24 ans. André Dumont, 18 mois. Robert Le Temps, 15 mois. Élise Bayeux, 2 mois. Jean-Baptiste Servet, 22 ans. Le dimanche, 23 août. Fusillé au moment où ils quittaient leur maison incendiée. Joseph Ballon, 68 ans, Marie Sausson, 55 ans, ses deux enfants, Paul Léger, 22 ans, Jeanne Léger, 15 ans, Laurence Capon, épouse Payot, 45 ans. Enfermés dans la cave d'une maison à laquelle les Allemands mettent le feu après avoir bouché toutes les issues. Marie Pétrement, 41 ans, Marie Collignon, 8 ans, Florent Collignon, 1 an, Nicolas Pétrement, 72 ans, son épouse Marie Servet, 66 ans.
Un jour dans l'histoire.
Et voici cette liste non exhaustive, André D'Artevel, faite par le curé de Etlatour, des victimes civiles des Allemands, donc en Gaume en 14, au total 218. Alors c'est un personnage très très intéressant dans votre film, le curé de Etlatour, qui ne prône pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'apaisement entre les victimes et les Allemands aujourd'hui.
Non, mais il faut dire que à sa décharge, il n'y a pas eu d'apaisement, dans la mesure où la justice n'est pas passée. Je veux dire, quand il y a un crime contre l'humanité, c'est passé quelque part. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux internationaux. Ça n'existait pas à l'époque, et après la guerre, ça n'a pas existé. Il y a eu des tentatives, mais qui se sont mal passées. Et donc, je pense que si la mémoire reste vivace, c'est à cause de ça. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu ni reconnaissance officielle, ni justice. Et c'est pour ça que aussi le pardon est impossible. Parce que la caractéristique d'un crime contre l'humanité, c'est son côté imprescriptible. Et donc, le pardon ne peut pas remplacer la justice.
Et il y a le travail très intéressant de réflexion qu'a fait une arrière-petite fille, je pense, une des victimes, une jeune femme, qui dit au fond, mais demander pardon aujourd'hui, ça ne rime à rien, ça n'a pas de sens, dans la mesure où il n'y a plus de bourreaux ni de victimes.
Non, bien sûr, parce qu'il y a un décalage de plusieurs générations. Et s'il y a demande et pardon, je veux dire que cet échange doit se faire entre des gens qui sont contemporains des faits. Mmh. D'un côté les victimes, et de l'autre les responsables des actes violents. En dehors de ça, ça n'a pas, 100 ans après, ça n'a aucun sens. Mais même à l'époque, si on avait fait des tentatives à l'époque des faits, ça aurait été difficile, ça aurait bloqué sur le côté imprescriptible, donc, dont je venais de parler, et aussi sur le fait que c'est difficile de parler de pardonner à une personne tout en ne pardonnant pas son acte criminel. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible de séparer le coupable et son acte? Non, c'est impossible. Donc voilà, je pense que c'est un des obstacles au chemin du pardon dans ces circonstances-là.
Et on voit que les témoins, enfin les descendants des victimes, aussi, je dirais, entre eux, un ressentiment très très fort. Certains disent on nous a transmis la haine, et d'autres, à contrario, disent aujourd'hui c'est la vie qui compte, il faut être dans la vie et la savourer chaque jour. On a le sentiment qu'il y a deux réactions aussi face à ces souvenirs.
Tout à fait, et l'histoire n'est pas finie. Je pense que du côté allemand, il y a eu des reconnaissances déjà. D'ailleurs, un des coups de théâtre de mon film en Gaume, les Allemands sont venus pour reconnaître les faits.